There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Il y a la sécurité qui vient me voir et qui me dit hop hop hop, tu vas arrêter de filmer jeune homme. Peu importe ce qui se passe, peu importe combien de temps ça me prend, il faut que je sorte un truc et de 1 qui me fait kiffer et de 2 qui soit quali et de 3 que ce soit à l'heure. Bah, il a organisé genre des c'est juste par rapport à la monétisation.
Non, c'est pas grave, c'est un podcast.
Genre, c'est des partous quoi. Enfin, ouais. Genre. Hey, j'étais vendeur quand on m'a dit ça.
J'ai limite envie de le laisser, c'est marrant. On a oublié tous les deux.
C'est extraordinaire.
Salut Léonard, comment est-ce que ça va?
Ah, ça commence direct.
Après, on peut. Il y a la petite. Normalement, ça aura déjà tourné un petit peu.
Bonjour Greg.
Enchanté Léonard.
Ça va bien.
Je viens d'arriver ici. Ça fait plaisir.
Ça, c'est faux. Ça fait 2 heures qu'il est là. Ça fait 2 heures qu'il monte un setup qui ne marche pas. Et au final, on se retrouve avec des petits micros cravates. Bon, c'est pas grave.
Ça le fait, ça le fait.
À la one again, c'est le mieux.
Mais ouais, voilà. Comme au tout début. Mais justement, ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast.
Plaisir partagé.
Ça fait des années que je te suis. Et j'ai regardé du coup pour le tournage de cette vidéo, ta toute première vidéo, en tout cas sur ta chaîne actuelle.
Ouais.
Et tu t'appelais même pas Léonard à l'époque, tu t'appelais Les Ordinaires.
Oh, t'as réussi à retrouver ça. Ouais, Comment t'as fait?
Bah, ton outro de vidéo, ouais. C'était pas marqué Léonard, c'était marqué Les Ordinaires.
Eh ben, figure-toi que encore avant ce pseudo-là, j'avais sur cette chaîne-là en tout cas un autre pseudo qui était Léo te parle. Et du coup, dans le lien de la chaîne, c'est écrit Léo te parle.
Ok.
C'est genre https://youtube.com/Léo te parle.
Ok.
Du coup, c'est un peu la honte quand j'envoie mon lien de chaîne YouTube aux gens. Parce qu'il y a écrit Léo te parle, ils se disent c'est quoi ce gars.
c'est pareil pour plein de YouTubeurs. Il y en a, McFly et Carito, c'est The Fat Show.
Ouais.
Quand tu cherches leur URL.
Hugo Posé, c'est Multigaming01. Squeezie, c'est Amoudi Squeezie.
Oui, c'est ça.
Amoudi qui était une team sur Call of à l'époque.
Ok, ça marche. Mais du coup, toi, t'étais Léo Ordinaire à un moment. Je voulais te poser une question là-dessus, juste avant que tu parles un petit peu de ton parcours et que tu te présentes un petit peu, mais je voulais savoir si L'Air Ordinaire, tu l'avais fait pour la vanne ou si derrière, il y avait quand même un sentiment d'être un petit peu un gars ordinaire au lycée, par exemple.
Ah, c'est marrant comme question. Non, déjà, ça vient pas de YouTube, ça vient de Ask. Je sais pas si t'as connu Ask.fm.
Ouais.
Et ben à l'époque il y avait ce site là, donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est comme Curious Cat. Bon, il y en a sûrement qui connaissent pas non plus Curious Cat, donc en gros c'est un site où on peut poser des questions.
C'est sur Twitter ça?
Ça a été beaucoup partagé sur Twitter, mais c'est vraiment un site qui est annexe.
Ok.
Et en gros Ask.fm, c'était en 2013 je crois, c'est un site où tu pouvais avoir un profil et les gens te posaient des questions, soit avec leur compte, soit en anonyme, et toi t'y répondais, il y avait un truc c'était une époque où tu essayais toujours de faire les meilleures blagues, les meilleurs machins, etc. Et du coup, j'avais un compte qui s'appelait Léo Ordinaire. Et j'étais ce qu'on appelait un peu un cyber, genre à l'époque. Je sais pas si t'as connu cette époque-là. Mais en gros, avec un pote à moi, on était beaucoup présents sur ce réseau social. Et à chaque fois que les gens ils nous posaient des questions, etc., on essayait de faire plein de blagues, c'était rigolo. Du coup, ça vient d'ici. Mais je me suis pas posé la question de est-ce que c'est parce que j'essayais d'être ordinaire ou pas, je t'avoue que...
C'était pas par rapport au fait que t'avais l'impression d'être un gars ordinaire?
Non, je pense que c'était juste un jeu de mots. Genre vraiment...
Il n'y a pas de truc derrière...
Non, je pense que c'était juste un jeu de mots.
Ok, mais c'était pour te poser la question parce que souvent, quand on est au collège ou au lycée, justement, on n'a pas envie d'être ordinaire. Et donc, c'est à ce moment-là que les réseaux sociaux peuvent arriver. Et par exemple, comme toi, t'as une chaîne YouTube assez tôt. Je me suis dit, si ça se trouve, tu te trouvais ordinaire. Et donc, tu crées ta chaîne YouTube pour sortir un petit peu du lot.
Bah, c'est intéressant comme théorie, mais c'est une fake news.
Ça marche.
Ça m'est pensé au gars qui crée des théories du... Non, mais c'est intéressant, franchement. Ça aurait pu être le cas, mais pour le coup, je crois que c'était vraiment un jeu de mots.
Ça marche. Ok, bon, maintenant que la petite question est posée...
En tout cas, t'as bien fait ton travail.
Ouais, j'ai fait mon petit travail de recherche. Mais par rapport à ça, je voulais te demander, déjà, comment est-ce que toi, tu te définirais pour les gens qui te connaissent pas forcément directement sur YouTube?
Comment je me définirais? J'ai beaucoup d'idées, je pense que je suis un ultra créatif, donc j'ai un peu des idées dans tous les sens. C'est assez compliqué des fois de synthétiser, et du coup ça fait que j'ai un peu des problèmes d'orga. Mais voilà, j'ai plein d'idées dans tous les
Attends,
sens.
t'es super bien organisé là.
Voilà.
Pour ceux qui voient pas, t'as des classeurs entiers de.
Ouais, non, mais alors ça, mec, c'est...
Incroyable.
Ça, c'est aussi une fake news. C'est vraiment genre... Non, maintenant, je suis un peu plus organisé parce que en grandissant, t'es obligé. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Mec, j'ai oublié la question. Putain, je suis désolé.
J'entends, j'ai la
J'ai
méchanceté.
oublié la question.
La question, c'était.
Mec, on parlait de quoi? C'est extraordinaire ce qui se passe.
Des classeurs. Ça l'a
Je suis
déstabilisé.
désolé, j'ai vraiment dormi très peu cette nuit et la nuit d'avant. Les classeurs. Mais pourquoi on parlait des classeurs?
J'ai limite envie de le laisser, c'est marrant. On a oublié tous les
Mec,
deux.
c'est extraordinaire!
Pour la question, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était quand est-ce que tu te définirais toi?
Ah oui!
Et tu m'as dit que tu étais très créatif.
Ouais, je suis
Donc c'est
très.
difficile,
Je
j'imagine.
suis très créatif, je pars dans tous les sens, du coup, au point d'oublier la question. Et j'essaye de réaliser au mieux bah, les idées que j'ai, etc. sur YouTube. C'est trop cool parce que c'est un métier un peu tout en un. C'est-à-dire que grâce à la chaîne, j'ai l'occasion de faire énormément de choses. De m'intéresser à plein de sujets parce que ben une nouvelle vidéo c'est un nouveau sujet et je vois un peu YouTube comme une cour de récréation et je suis comme un fou. Ça me
Ok.
fait trop trop kiffer.
Moi, je te mets un petit peu dans la case des youtubeurs expérience où tu vas tenter. C'est des youtubeurs concept. T'as des concepts.
C'est totalement ce que je fais, je pense c'est le bon terme des concepts, des vidéos
Ok.
des vidéos conceptuelles. Ouais.
Et j'ai regardé un petit peu l'évolution des vidéos que tu as faites depuis 5 ans, au moins 5 ans. Ça fait combien de temps enfin, sur cette chaîne YouTube en
Sur
tout
cette
cas.
chaîne, ça fait depuis deux, je crois qu'elle a été créée en 2013, si je dis pas de bêtises. La première vidéo, elle date de 2013 sur cette chaîne. La première vidéo officielle, elle date de 2015.
Salut YouTube, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo.
C'était un espèce de petit sketch, mais on va dire c'est la première vidéo que j'assume vraiment, genre.
Ouais, c'est la première qui est publique, c'est celle que j'ai vue ce matin quand j'ai regardé les dernières pour voir à quoi ça ressemblait.
Ok, le journaliste.
Ouais, c'est ça. Je me suis mis dans la peau du journaliste ce matin et en tant que journaliste, j'ai remarqué que dans tes vidéos, parfois, tu disais je viens de rentrer du lycée et donc à ce moment-là, t'étais au lycée.
Je crois qu'en 2015, donc sur la première vidéo que tu as dû voir, je devais être en seconde. C'est ça, c'est
Ok.
seconde. J'étais en
Et
seconde.
tu, ce qui était marrant, c'est que parfois, tu faisais des asks. Tu vois, à l'époque,
Oui,
c'était un peu du CV.
exact, les FAQ,
Tu
ouais.
faisais des asks et à chaque fois, tu parlais de ton nombre d'abonnés. Par exemple, tu disais, ah, merci, on est déjà 18 000. J'ai regardé un ask, après, tu étais 36 000, donc ça avait doublé. Et je voulais te demander comment est-ce que ça se passe, parce que je pense que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. À quoi ça ressemble d'être un petit peu connu quand on est au lycée, sur
Alors,
les réseaux?
bah déjà, je pense que ça dépend. Enfin, moi à l'époque, c'était un peu la honte. Enfin, c'est pas que c'était la honte, mais c'était les débuts un peu de YouTube, etc. Et pendant longtemps, j'ai pas assumé ma chaîne. Du coup, pendant longtemps, je montrais pas mon visage.
Ok.
Ensuite, j'ai commencé à montrer mon visage. Et j'étais en mode, j'espère que les gens, ils vont pas tomber sur ma chaîne pour pas qu'on se moque de moi au lycée. Et c'est vrai qu'au tout début, quand bah, les gens de mon lycée, même au collège, parce qu'ils ont commencé à savoir que je faisais des vidéos fin collège, ils voyaient les vidéos, j'étais en mode putain et tout, mince, la honte, c'est même arrivé qu'on se moque de moi, etc. C'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de youtubeurs. Et puis au fur et à mesure que mon nombre d'abonnés a grossi, j'ai pris confiance en moi et puis ça a été comme ça. Mais c'est vrai qu'en seconde, je me rappelle, je devais avoir à peu près 1000 abonnés. Je crois que j'ai atteint les 1000 abonnés en seconde et c'était pas stylé. Enfin, genre,
Ok.
j'étais pas le mec hyper avec une chaîne YouTube hyper populaire, machin. Enfin.
C'est vrai que si je repense à mes années lycée, ceux qui avaient la classe, c'était le sport, ceux qui faisaient du sport, ou ceux qui faisaient de la musique, ou des arts un petit peu comme ça,
Les
du sport.
footballeurs.
Du sport, ouais, du sport ou de la musique, ou de l'art. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était pas considéré comme un truc très créatif.
Ouais, puis je te dis, enfin vraiment, à l'époque, c'était très peu démocratisé. Aujourd'hui, il y a, enfin, depuis des années, il y a plein de youtubeurs, donc c'est plus facile de montrer sa tête. Mais à l'époque, c'était un peu la honte. T'avais pas trop envie que les gens ils sachent que tu faisais des vidéos, etc. Et je me rappelle, je m'étais dit, ok, quand j'aurai 10 000 abonnés, là, je pourrais dire, je fais des vidéos. Et au final, je crois que c'est un peu le cap où j'ai commencé à l'assumer vraiment.
Ok. Ah, c'est bête parce que du coup, t'as eu la fame de youtubeur à l'époque où c'était pas encore aussi stylé que.
Ouais, alors que, tu vois, aujourd'hui, je pense vraiment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. D'assumer le truc, de montrer sa tête, etc. Okay. Et ouais, c'est dommage parce qu'en vrai, je pense que j'aurais pu faire d'autres trucs cool à l'époque, mais bon.
T'as pas pu profiter de cette petite fame de youtubeur quand t'étais au lycée pour avoir des...
Non, ça a commencé à décoller quand j'étais en première et c'est le moment aussi où moi j'ai pris un peu confiance en moi.
Ok, et en parlant de décoller, ayant fait mon petit travail de journaliste, j'ai remarqué qu'une vidéo s'était démarquée plus qu'une autre à cette époque-là.
Ouais.
Une vidéo réaction.
Dis-moi.
Je réagis au pire
Musical.ly, ouais.
C'est...
Wow.
6 millions de vues.
6 millions de vues. Mais tu sais que ça, c'était énorme. Musical.ly d'ailleurs, qui est l'ancêtre de TikTok, pour ceux qui savent pas.
Et c'était il y a 5 ans.
C'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans.
Qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'elle a amené énormément de monde sur la chaîne.
Bah, c'est la vidéo qui a fait vraiment tremplin. C'était super bizarre parce que je crois que du jour au lendemain, je suis passé de vraiment. Pas rien, mais ça a vraiment décollé du jour au lendemain. Et ça m'avait propulsé premier tendance, machin. C'était énorme. J'étais. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pris. Enfin, c'était un moment où je m'étais dit, oh, Musical.ly, machin, c'est sympa. Moi, c'était une application que je consommais pas du tout. Mais par contre, je trouvais ça marrant. Et je me suis dit, allez, let's go, je vais aller voir un peu ce qui se fait sur l'application. Donc, j'ai fait cette vidéo réaction à Musical.ly. À l'époque, j'étais le premier à faire une vidéo réaction. En fait, en France, personne faisait de contenu react. Et du coup, je fais ça. Et je me fais... Donc, la vidéo explose, la vidéo cartonne. Je continue, je fais d'autres vidéos comme ça et ça cartonne et je prends genre 100 000 abonnés en quelques jours. Mais je me fais défoncer. Quand je te dis que je me fais défoncer, c'est vraiment, j'ai tout le monde sur mes côtes en mode mais les réactions, c'est pas du vrai contenu, machin, tu prends du contenu et tu réactes, c'est trop bizarre. Et moi, je devais avoir 16 ans, j'étais en première. Et le fait déjà de décoller d'un coup comme ça, ça m'a fait trop bizarre. Et de deux, de subir massivement des critiques, bah pareil, je le vivais pas très bien. Et je me rappelle qu'après cette période-là, j'ai fait une pause de quelques mois parce que justement, j'avais été beaucoup critiqué, etc. Alors, aujourd'hui, je suis content parce qu'au moins ça m'a permis de, à l'époque, forger une carapace entre guillemets, et c'est ce qui m'a donné de la force aussi pour continuer derrière. Mais j'avais tous les... Je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, mais il y avait une époque où il y avait plein de youtubeurs critiques.
Ouais.
C'était...
Enfin, j'étais
c'était...
pas sur...
Ouais, bah, t'avais des Antox Colaboy, des... Sirjibzi...
Ah, mais il est encore présent.
Il est encore présent.
Ok, donc c'est des concepts comme ça, beaucoup plus qu'avant.
T'avais plein de youtubeurs critiques et je m'étais fait défoncer.
Déjà en 2015, il y avait Sirjibzi qui était en train de dire...
il était déjà là avec sa bière.
Parce que j'allais te demander, du coup, les critiques, c'était sur les réseaux ou c'était dans au lycée ou
Non, c'était vraiment sur les réseaux. C'était vraiment sur YouTube.
Et ça t'a gâché un petit peu le plaisir d'avoir
C'est pas que ça m'a gâché le plaisir, c'est que en fait, j'ai décollé d'un coup avec un concept qui était, en l'occurrence, les réactions, qui n'avaient pas été fait en France. Et je me fais défoncer. Et moi, les gens, leur argument, c'était c'est du contenu facile, etc. Et j'étais en mode, bah putain, ils ont raison, c'est du contenu facile, machin. Le truc, ça marche à mort, mais il n'y a pas de travail derrière. Et du coup, remise en question, je me dis, bah vas-y, je vais pas faire ça vu que c'est un truc facile. Et du coup, j'ai stoppé et j'ai arrêté YouTube pendant quelques mois à ce moment-là. Alors j'aurais dû continuer. Squeezie fait des réactions maintenant. Non, mais tu vois, enfin.
C'est toujours comme ça quand tu lances un concept novateur.
Ouais.
Surtout un concept qui a aussi bien marché maintenant sur YouTube. Souvent, les premières personnes qui font le concept ou qui créent le mouvement, bah, elles se prennent
tout. Ah, mais tu débroussailles.
Ouais, elles se prennent toutes. Bien sûr. Tous les retours d'un coup.
Et alors, ça, c'est un truc, je me rappelle, ça m'avait marqué. Genre, j'avais été à l'époque à une un événement, c'était la Paris Games Week. C'était à Paris Games Week 2016. Et ça m'a fait trop bizarre parce que du coup, comme j'avais décollé d'un coup, je pouvais rentrer dans tu sais, l'espèce d'endroit là où il y a les youtubeurs, etc. Du coup, je rentre dans l'endroit et j'étais en mode « Waouh, il y a plein de youtubeurs, c'est trop cool !» Je vais aller prendre des photos avec eux. C'était rigolo.
T'étais un abonné au sein de...
Tu sais, j'étais là genre... Excuse-moi, on peut prendre une photo.
Mais à ce moment-là, t'avais aussi des gens qui te reconnaissaient en tant que youtubeur.
Ouais.
Ouais.
Mais tu sais, quand c'est rapide, tu t'en rends pas forcément compte. Ça.
Ok. Mais c'est la question que je voulais te poser une fois que j'avais vu... je m'étais douté... Enfin, maintenant, on peut pas savoir... C'est quand j'ai vu que tu avais fait 6 millions sur cette vue, de vues sur cette vidéo. Je sais pas ce que ça représente à l'époque, mais je savais que ça...
Eh ben, je crois que cette vidéo-là, à l'époque, c'était déjà un truc énorme. Je crois qu'elle avait dû faire 3 millions de vues en quelques semaines.
Ok.
Et il y avait eu cette première vidéo. Et du coup, j'avais enchaîné sur plusieurs contenus réactions.
Ok.
Et ça m'avait fait, ça m'avait fait décoller en quelques semaines.
Et ça m'intéressait de savoir, donc, l'après. Parce que souvent, là, le pendant, ça se passe... ou alors tu réalises même pas, mais en tout cas, c'est assez agréable de voir des statistiques qui montent. Et je voulais te demander, justement, l'après, comment tu l'as vécu. Donc, t'as fait une pause. Bah, plus, t'as tiré un petit peu des retours négatifs qui t'ont affecté.
Pour moi, c'était vraiment une première expérience avec Enfin, c'était mes premières vidéos qui marchaient. Tu sais, il y a toujours ce truc de... Je crois que c'était Pierre Cross qu'on a parlé dans un podcast. Il disait, la première fois que tu fais 1 million de vues, bah, ça peut être un coup de chance. La deuxième fois, c'est toujours plus compliqué parce que tu sais, enfin, peut-être que la première fois, tu as eu un coup de chance. La deuxième fois, il faut que tu réussisses à le refaire. Et c'était la première fois que j'avais vraiment un contenu qui fonctionnait. Et c'était rigolo parce que bah, du coup, toutes ces vidéos-là, elles n'ont jamais été monétisées. J'ai jamais touché un centime de ces vidéos. Parce qu'en fait, c'était... tu sais, t'avais des musiques par-dessus.
Ah oui,
les musicales. Ok. Et du coup, c'était... tout est allé chez Universal. J'ai jamais vu un petit centime de ces vidéos.
Ok.
Mais c'était ma première expérience avec du contenu qui était un peu viral. C'était la première fois que j'étais un peu mis dans les onglets tendance, un peu mis en avant, etc.
Ok.
Et après ça, j'ai fait une pause pendant quelques mois. Et puis à un moment je me suis dit mais en fait j'adore créer des vidéos donc j'ai recommencé. Mais c'est vrai que les critiques ça avait bien calmé.
Surtout à cet âge là pour moi les critiques, ça c'est ce que je me rends compte avec par exemple ça me fait rire quand je vois des adultes entre guillemets, des gens plus âgés qui commencent sur les réseaux et qui prennent des critiques,
ouais.
Ils les prennent trop à cœur et on se dit ah mais en fait c'est des adultes,
bah,
et
bien sûr.
Ils les prennent trop à cœur aussi.
Mais c'est pour ça que je suis content d'avoir vécu ça, c'est qu'au ouais. moins j'ai été vacciné, tu vois. Non, mais c'est vrai.
T'as que des termes d'actualité.
Allez, hop, la vidéo qui part au cachot parce que j'utilise ce genre de termes. Non, mais au moins, ça m'a vraiment sensibilisé au truc. Et ce qui fait que, un peu plus grand, j'avais plus cet attachement aux commentaires négatifs.
Ok. Donc là, on est vers les années 2015-2016.
Là, on est en 2016. On est en septembre 2016 quand je sors les vidéos réactions musicales.
Donc, j'imagine qu'après, tu es toujours au lycée, donc tu continues de faire des vidéos.
J'étais en première.
Ouais.
Je continue, voilà. Enfin, je fais une petite pause, mais je continue de temps en temps à publier du contenu quand ça me fait plaisir.
Et c'est un plaisir, c'est des...
Bah, en fait, j'ai commencé en 2011. Donc, j'ai commencé à l'époque quand tu avais The Fantasy 974, okay. Diablo X9,
ouais.
Cyprien, ouais. Tous les grands. Et j'adorais. J'ai commencé en faisant du Minecraft. J'ai fait du Counter-Strike Source, donc CSS à l'époque. Enfin, j'avais une petite chaîne gaming qui était pas sur cette chaîne-là, donc une autre. Et c'était vraiment juste une passion, c'était créer du contenu. J'avais même une autre chaîne YouTube où je faisais des tutoriels. Tuto comment télécharger un film, tuto comment rembourser son crédit.
Il y avait aussi à cette époque-là, c'était les tutos jailbreaker son iPhone.
Ouais, est-ce que t'as connu iPod Touch The Pro?
Oui!
Il était trop fort ce mec.
Il m'inspire à lancer des. J'ai une chaîne qui s'appelle Grégoire iPod.
Arrête. C'est trop marrant.
où j'apprends à. Alors c'était pas jailbreak parce que je me disais vas-y ça doit pas être légal, je vais pas faire des vidéos YouTube pour ça. J'avais déjà peur à l'époque des retombées judiciaires. Et du coup je faisais juste des petits tutos. Tu sais le jeu avec les zombies là qui croquaient les.
Zombies vs plantes non?
Non c'était les zombies, une course de zombies où en gros tu commences à 1.
Ouais.
Et en gros je faisais des reviews de jeux. Okay. Genre zombies. Il y avait un jeu, c'était Alphat 6.
Okay.
Sur donc des voitures. Enfin bref, je faisais des reviews de jeux. Mais donc j'ai connu.
Pour ceux qui n'ont pas connu ça, iPadTouch The Pro, c'était un gars qui avait une chaîne YouTube et qui faisait plein de vidéos où il expliquait comment débloquer son iPhone pour avoir toutes les applications gratuites. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, toutes les applications sur iPhone étaient payantes. Tu voulais Angry Birds, c'était 1,99€. Tu voulais Temple Run, c'était payant. Tout était payant.
Même la torche. Les applications.
Arrête. Ah ouais, ouais, mais c'était ouf, c'était notre époque. Tout était payant.
Ouais.
Et pareil, t'avais pas le streaming, machin. Toute une musique, c'était 99 centimes ou 1,99€. C'était abusé quand même.
Ok.
Et c'était Cydia, je crois, le truc quand tu jailbreakais.
Bon, là, ça a parlé que à notre génération, donc 98. Ouais. 96, 2000, je pense. Mais donc, ok, donc intéressant, t'es au lycée et.
Je jailbreak mon iPhone.
Déjà dans l'illégalité, pour avoir des applications gratuites. On va avancer dans le temps. En 2019, où tu fais une vidéo sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Je dois vous parler. Tu vois un peu la vidéo,
ouais,
et dans celle-ci, tu dis que maintenant tu vas plus te professionnaliser sur YouTube et qu'avant tu le faisais par envie de temps en temps, mais là que tu as envie de le faire de manière plus pro.
Ouais.
Et ça coïncide avec ce que tu m'as dit avant qu'on tourne ce podcast, où tu m'as dit qu'en 2019 il y a eu un changement par rapport à la chaîne. Et je crois que c'est justement à cette époque-là où j'ai dû te voir les premières vidéos apparaître sur mon feed YouTube. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? C'est quoi la démarche? T'es à la fin du lycée?
Ouais.
Et tu te dis, je vais me professionnaliser plus.
Je suis pas à la fin du lycée parce que j'ai eu mon bac en 2017. Donc
ah ok, c'est après.
Donc j'ai eu mon bac juin ou juillet 2017. Je fais une année sabbatique où je monte une boîte, ça marche pas, ça se casse la gueule. Je me dis que je vais reprendre les études, mais qu'il faut que j'aille vivre dans une plus grande ville parce que je suis originaire d'Orléans. La ville de Jeanne d'Arc, pour ceux qui ont
okay.
la référence.
Si elle passe par là.
Tu connais Orléans?
Orléans?
Ouais.
Non, je connais pas. Je connais pas. De nom, hein.
Bon, Giga
je sais que je sais qu'il y a un grand youtubeur qui habite là-bas, mais.
Ouais, le gars
ouais.
là.
Ouais, le ordinaire.
J'allais dire Alex.
Ah, c'est vrai qu'Alex, il est là-bas aussi?
Ouais, il est
là-bas. Ok, donc les deux gros youtubeurs d'Orléans qui représentent la ville, ok.
C'est ça.
Mais je connaissais pas.
Tu rates quelque chose, mec.
Mais c'est une grande ville, enfin, c'est pareil.
C'est une ville de province, c'est 200 000 habitants, mais...
Ah ouais, quand même, ok. C'est comme moi, j'habite à Caen, j'ai fait mes études à Caen, et à chaque fois, je comprends pas que les gens ne connaissent pas cette ville, parce que pour moi, c'est une grande
Caen,
ville.
C'est quand même connu, Caen.
Bah oui, mais je sais pas combien il y a d'habitants, mais ça
après,
doit être...
Après, tu me diras, moi, je connais Caen par procuration de Orelsan,
voilà,
tu vois.
Bah oui.
Est-ce que t'as été tester le kebab, là, dont il parle?
tout le monde me pose la question.
C'est vrai. Et alors,
mais
on veut connaître la vérité.
Moi, ça me tue. C'est le kebab Magic Bogos.
C'est ça?
Ouais, délice
sauce
Magic Bogos.
Sauce Magic.
Alors,
tu l'as testé ou pas?
C'est très marrant que tu poses la question parce que mon premier appartement étudiant était dans la rue du kebab.
Okay.
Et déjà à l'époque, c'était un peu une rosta.
Orelsan ou le kebab?
Non, dans le.
Okay.
Les deux.
Ok.
Le kebab était déjà dans l'élite du kebab canet, tu vois. Okay. Parce que tout le monde connaissait déjà Magic Bogos.
Ok.
Et l'origine de la sauce Magic Bogos, c'est qu'en fait, le gérant du lieu, enfin, le gérant du kebab, à chaque fois qu'il te demandait quelle sauce, il te disait, je te mets quelle sauce Bogos.
Ok.
Il t'appelle Bogos.
Peut-être
qu'il
draguait au final.
Non, parce qu'il disait vraiment avec tout le monde. Et donc, il a créé la sauce Magic, et donc à chaque fois, il disait, je te mets la sauce Magic Bogos. Okay. Maintenant, le kebab s'appelle comme ça, et Orelsan en a parlé dans son clip extrait maintenant. C'est pour ma ville, sauce Magic Bogos.
Hey. Sauce Magic. Droit d'auteur terminé maintenant.
Bref, il en parle à ce moment-là dans son nouvel album. Tout le monde en parle maintenant. Il y a trois fois plus de files d'attente qu'avant. Alors qu'avant, déjà, ça marchait bien. Mais maintenant, voilà, c'est un lieu emblématique maintenant. Il a lancé une carrière qui était déjà un petit peu lancée. Mais là, vraiment.
Il était satellisé grâce à une punchline.
Donc, oui, ça existe bien. Tous les Canets connaissent.
Okay.
Et moi, j'y suis jamais allé.
Mais attends, on dit les Canets?
Ouais, les Canets.
Ah, ok, j'aurais pensé qu'on disait les Canois.
Non. Okay. Ça doit être les petits des canards, ça, je pense.
Ou peut-être les gens qui habitent à Cannes.
Cannes, ouais, je sais pas. Mais il y a trop de transitions possibles.
Ouais, mais on fait des parenthèses dans des parenthèses. Donc j'étais à Cannes il y a deux semaines.
T'es allé voir le festival.
Alors c'est super marrant parce que j'étais à Cannes, mais j'ai pas été. J'étais à Cannes pendant le festival de Cannes, mais j'étais pas invité au festival.
Merde.
Donc, non, j'y suis allé parce que j'ai un de mes meilleurs amis avec... Enfin, ses parents ont un appartement là-bas. Et quand on était plus jeunes, souvent, on y allait pendant les vacances. Et lui, là, il passe son enfin, il passe l'ENAC. Et entre les deux épreuves d'ENAC, pour décompresser, il m'a dit, bah, viens, on part quelques jours prendre le soleil.
Okay, je sais pas ce que c'est l'ENAC.
L'ENAC, c'est l'École Nationale d'Aviation Civile. C'est la meilleure école, bah, c'est la seule école publique.
Ça marche.
Et les examens sont super durs. C'est des très, très gros examens. Donc, bah, je lui souhaite bon courage. C'est dans quelques jours. C'est le 13 juin.
Force à lui.
Force à lui.
Mais du coup, alors, transition sur transition, kebab, Cannes, on revient à cette vidéo où tu dis que tu vas te professionnaliser.
Ouais.
Donc, tu avais voulu lancer quelques boîtes avant.
Ouais, et en fait, du coup, je vais continuer ce que je disais. En gros, je voulais aller vivre dans une grande ville pour avoir plus d'opportunités, plus de choses à faire. Enfin, Orléans, c'était une ville de province, donc je voulais savoir ce que ça faisait d'aller voir plus grand. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go. Je vais reprendre les études. J'ai commencé une licence d'administration économique et sociale à Lyon. Donc, je vais vivre à Lyon. Je commence la fac. Et au bout de vraiment 2 semaines, je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois, je suis dans l'amphi. Je suis en CM, donc en cours magistral. Et les gens, enfin, le prof, il fait un truc. Les gens, ils se tapent une barre. Non, c'est pas possible. En plus, ce qu'on apprenait, c'était des trucs qui soit m'intéressaient pas, soit je savais déjà. Donc, je décide de partir. Donc, vraiment,
parce que tu avais déjà une expérience.
Bah, je me suis toujours beaucoup intéressé à la com, au business, enfin, à plein de trucs. Et du coup, par moi-même, je m'étais pas mal formé. Et vraiment, un soir, je rentre chez moi, fallait rendre un truc. Je fais, oh, vas-y. Vas-y, j'arrête, ça me saoule. Et pas en mode genre, vas-y, j'arrête, ça me saoule, je vais tout arrêter, tu vois. En mode, j'arrête, ça me saoule, je vais faire autre chose, un truc qui me fait kiffer.
Ok. C'est intéressant d'avoir aussi ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, parce que moi, par exemple, d'un point de vue spectateur, bah, j'ai pas imaginé tout ce qu'il y avait. En fait, moi, juste un jour, j'ai vu marquer sur mon feed YouTube les pires annonces. Non, c'était pas les pires annonces de Bon Coin, c'est pas ça, c'est Amixem. T'avais fait une vidéo.
Oui, bah, pas confondre. On fait pas les mêmes vidéos, on n'a pas le même nombre d'abonnés non plus.
Non, mais je sais. En fait, c'est ça, je sais plus. Il y a des youtubeurs, je sais la première vidéo que j'ai vue d'eux sur le feed, parce que je sais pas, ça m'avait. Je m'en suis souvenu. Toi, je sais plus, mais c'était de manière assez régulière en fait. Que tu es arrivé sur mon feed et à chaque fois une nouvelle expérience ou un nouveau concept.
Tout à l'heure, tu parlais de cette vidéo où je disais que je voulais changer. Enfin, c'était quoi le titre de la vidéo? Je me rappelle plus.
Il faut qu'on parle
un truc comme ça. C'était c'était à la période où je revenais à Orient et je m'étais. En fait, il y avait un truc qui m'avait un peu trauma. C'est que moi, je j'aimais pas le contenu que je faisais forcément sur YouTube. Comme j'avais eu beaucoup de critiques quand j'étais plus jeune sur les vidéos que je faisais, que ce soit les vidéos réactions ou d'autres trucs, dans ma tête, j'étais un youtubeur cancer, tu vois. Genre, alors,
c'est
très dur, mais dans ma tête, j'étais un youtubeur cancer. Enfin, j'avais une mauvaise image, etc. Et je faisais des vidéos qui, parfois, tu vois, me faisaient pas kiffer, mais je me disais, ok. Bah, ça va bien marcher, ça va être cool, les gens ils vont bien kiffer et tout. Et du coup, je sais pas, j'avais un problème avec l'image que je dégageais. Et je m'étais dit, ok, si je reprends YouTube et que je fais vraiment le truc à fond, et que en l'occurrence, je veux en vivre, bah, je peux pas faire un truc que j'aime pas. Je suis obligé vraiment d'être 100% moi-même et de faire un contenu que je veux qui me fait kiffer. Donc il fallait que je change mon contenu et c'est à ce moment-là où j'ai fait cette vidéo en expliquant que c'est plus simple de faire du contenu facile, mais je voulais vraiment faire un truc qui me faisait vibrer. Et du coup j'avais un objectif, c'était faire une vidéo par semaine, c'était tous les mardis, et je me disais tous les mardis il faut que je sorte un truc. Peu importe ce qui se passe, peu importe combien de temps ça me prend, il faut que je sorte un truc, et de un, qui me fait kiffer, et de deux, qui soit quali, et de trois, que ce soit à l'heure.
On sent qu'il y a un passé de personnes...
J'ai réussi, donc Donc au début, la première vidéo que j'ai faite, où vraiment, vraiment par contre, j'avais pas mal galéré, c'était résoudre un Rubik's Cube en moins de 2 minutes en 40 jours. Et en gros, je m'étais filmé pendant 40 jours à apprendre à résoudre un Rubik's Cube, et l'objectif, c'était de le passer en moins de 2 minutes. Ensuite j'ai fait une vidéo où je parlais, le but c'était de parler toute la vidéo en anglais. Ensuite j'ai fait des vidéos comme ça, c'était tous les mardis. Et vraiment, première semaine, la vidéo elle marche pas. Deuxième semaine, la vidéo elle marche pas. Troisième semaine, la vidéo elle marche pas, parce que ça avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Et puis j'avais fait des grandes pauses. Du coup, je t'avoue que les gens ils doutaient un peu, ils se disaient oula, qu'est-ce qu'il fait? Et moi j'étais juste en mode bah tranquille, enfin, c'est un truc qui me fait kiffer, si je continue comme ça, il y a forcément un moment où ça va décoller. Et en l'occurrence, j'ai cru en mon truc, et il y a au bout de la quatrième ou la cinquième semaine, ça a vraiment explosé, et mes vidéos ont commencé à un peu plus se référencer, et c'est le moment où je me suis relancé.
Ok, ça c'est un beau message, parce que je trouve, c'est en ayant parlé à beaucoup de youtubeurs notamment, et je pense que ça touchera toutes les personnes créatives, lorsqu'il y a une personne qui veut se fixer un nouvel objectif, ou alors qui veut être original dans ses concepts, souvent c'est pas apprécié au début, et si t'arrives à être régulier et à te dire comme toi par exemple, bah, je vais rester régulier au moins, je sais pas, au moins 10 semaines et sortir 10 vidéos, t'en as souvent au moins une dans le lot qui fait un petit peu la diff et qui permet de te dire que t'es sur la bonne voie. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup d'athlètes créatifs et beaucoup de youtubeurs aussi.
Ouais, bien sûr. Après, il faut savoir aussi se remettre en question, tu vois. Des fois, le problème, il peut venir de toi, et faut que tu le saches aussi. Parce que si tu fais toujours la même chose et que tu t'étonnes que ça marche pas, bah, à un moment, il faut changer la recette. Et c'est aussi ce qui est trade sur YouTube, c'est que sur YouTube et sur, je pense, tous les réseaux, il faut savoir s'adapter. Le game, il est tellement en évolution constamment que t'es obligé d'évoluer. Ce que t'as fait aujourd'hui, ça sera pas forcément ce qui marchera demain, et ce que t'as fait avant-hier, ça sera pas ce qui marchera, c'est pas ce qui marche aujourd'hui. Enfin,
mais j'ai bien aimé ce que tu disais, quand tu disais que même en ayant voulu te renouveler et que tu voulais faire des bons contenus qui te plaisaient, etc., les premières semaines ça a pas plu parce qu'ils étaient pas habitués à ça. Ton audience n'était pas habituée,
bah, l'audience n'était pas habituée, l'algorithme n'était pas habitué non plus. C'est-à-dire que tu sais, t'as ce truc sur YouTube où par exemple, enfin, moi en l'occurrence, je pense que aujourd'hui, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, une chaîne YouTube, c'est surtout un format. Et du coup, évidemment, si tu balances un format qui est différent, les gens vont pas forcément être réceptifs pareil.
Ok. Et c'est quoi ta vidéo préférée aujourd'hui quand tu regardes toutes les vidéos que t'as produites depuis des années?
Dans mes vidéos?
Ouais, si t'as une vidéo que tu regardes de temps en temps où tu te dis que t'es assez fier.
Je peux en citer plusieurs ou pas?
Bah oui, oui.
Okay.
Oui.
Un, il y a la vidéo où j'offre une voiture à ma mère, parce que bah, c'est une consécration de fou. Deux, il y a la vidéo partir en vacances sans argent avec Alex, parce que c'était la première fois qu'on tournait vraiment une vidéo ensemble, et c'est en vrai la vidéo qui a fait qu'on s'est rapprochés. Et puis c'était un truc de fou, ce truc là en fait, on se connaissait pas vraiment, et ce qui est super drôle, c'est que pour ce tournage là moi je lui pitch le truc, et lui il s'imaginait que j'avais tout bien organisé, qu'il allait avoir un truc carré, etc. Et du coup on se donne rendez-vous à un endroit, et vraiment genre il me fait mec, du coup on fait quoi et tout. Je fais bah on improvise, et lui ça attendait pas, et du coup il est sorti de fou de sa zone de confort. C'était trop marrant parce que moi, c'était une époque où j'étais en mode no problème, tu vois. Peu importe comment on va le faire et on va réussir. Et du coup, c'était un tournage super marrant. Et puis, il y a aussi la vidéo du pont. Quand on a traversé un pont, pareil aussi avec Alex, c'était super marrant. On a traversé un pont en Suisse, et en fait, pour aller au pont, il y avait une randonnée à faire, mais c'était une randonnée où il fallait être expérimenté en randonnée. Sauf que nous, on n'avait pas mangé le matin, on était en pantalon, genre jean, pas du tout habillé pour faire une randonnée. Et moi, je savais pas qu'il fallait faire une randonnée pour accéder au pont. Et du coup, c'était une galère. On a dû marcher pendant 3 heures au sommet d'une montagne pour accéder au pont. Voilà. Okay. Je pense que c'est les 3 tournages qui m'ont vraiment marqué. Après, il y en a eu plein, plein, plein. Ouais.
Ouais, et puis chaque tournage a un peu un souvenir.
Ouais, chaque tournage a un souvenir, chaque tournage a une galère. Fin...
Et c'est pour ça que je voulais te demander, parce que bah, par exemple, il y a une vidéo auquel je pense quand tu me dis galère, c'est en fait, tu fais des vidéos où on se dit, ah, j'aimerais pas être à sa place aussi parfois.
Ah ouais?
Un petit peu sale. Bah, par exemple, t'as fait une vidéo rester 24 heures dans un aéroport.
Ouais, ah oh, putain.
J'ai déjà été bloqué dans un aéroport parce que l'avion était décalé d'une journée. Sauf que moi, après, je suis parti, la compagnie aérienne, en gros, nous loger dans un hôtel pas loin. Le temps qu'on dorme et ensuite on repart à l'avion. Mais je me suis dit, quand j'ai vu l'aéroport quasiment tout éteint, où il y avait beaucoup moins de monde, ça fait tout de suite beaucoup plus glauque.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tu vois.
Ouais.
Et je me suis dit, j'aimerais pas rester là quand même.
Mais surtout, cette vidéo, il m'est arrivé un truc trop relou. C'est qu'en fait, je l'ai tournée deux fois. La première fois que je l'ai tournée, je commence... Enfin, la vidéo pour ce... qui ont pas la référence, c'était vivre 24 heures dans un aéroport. Donc il fallait que j'aille dans le hub central, et pour aller dans le hub central, là où il y a tout, les duty free, etc., il fallait que je prenne un billet d'avion. Donc je paye un billet d'avion pour accéder, pour passer la douane, et ensuite je reste dans l'aéroport. Trop chelou. Il y a la sécurité qui vient me voir et qui me dit, hop hop hop, tu vas arrêter de filmer, jeune homme. Hop hop hop, tu vas arrêter de filmer tout de suite, jeune homme. Du coup, je suis en mode, oui, enfin, là, ça fait 10 minutes que je filme et il me reste 23 heures et 50 minutes. Et deuxième truc, je veux passer la douane. Et là, ils me disent, mais en fait, ta carte d'identité, elle est périmée. Et je m'en étais pas rendu compte, ma carte d'identité, elle était périmée depuis 3 jours. Du coup, je pouvais pas accéder à la douane. Donc, j'ai commencé à tourner cette vidéo-là. Mais j'ai pas pu, j'ai dû la retourner à peine une semaine après.
Est-ce que tu n'en parles pas dans la vidéo?
J'en ai parlé un moment.
Me semble que tu
l'as. Ouais, j'avais fait une vidéo où je racontais des anecdotes.
Ah, c'est ça. Mais c'est pas dans la vidéo en elle-même.
Ouais.
C'est ça, on se rend pas compte parfois de la galère des tournages.
Mais moi, franchement, une vidéo, une galère. Mais une galère exceptionnelle. J'ai eu des trucs de fou.
C'était la question que je voulais te poser. Ouais. C'est est-ce que maintenant, là, qu'on a évoqué pas mal de ton parcours, est-ce que t'as des vidéos où tu dis là, soit il s'est passé un truc drôle, soit il s'est passé un truc gênant, mais est-ce que t'en as quelques-unes qui te viennent en tête?
Bah. J'ai un gars qui s'est cassé un tibia sur une vidéo. Oui. Genre en mode son, ouais, mais le pauvre. Ça m'a fait peur et j'étais mal pour lui parce que vraiment c'était horrible. Une vidéo où vraiment je me suis dit, ok, là c'est marrant, ok, là.
Ou gênant, genre on s'en rend pas compte à la caméra, mais bah là typiquement. Un imprévu de tournage, un gars qui se casse quelque chose, c'est terrible.
En fait, il m'a... Vraiment, il...
il y en a trop.
Là, comme ça, je saurais pas te dire.
Ok, bon après, déjà, c'est la carte d'identité périmée, le gars qui se pète quelque chose pendant un tournage, et... Ouais, il en faudrait une petite troisième.
Ah, mais j'essaye de trouver un truc. J'ai envie de te trouver un truc. Est-ce que je peux m'aider juste en allant sur ma chaîne pour voir les
vidéos? Ouais, vas-y, regarde.
Ok, cool. Tu sais, je faisais beaucoup de vidéos où j'allais voir passer genre une nuit ou quoi dans des endroits un peu insolites et tout. Et sur un des endroits insolites, genre ensuite, il y a des gens qui m'ont dit que le propriétaire, il organisait genre des soirées un peu dans cet endroit. Et du coup, j'étais mort.
Dis les termes. Moi, j'ai compris.
Bah, il organisait genre des... je sais pas, c'est juste, en fait, c'est juste par rapport à la monétisation.
Non, c'est pas grave, c'est un podcast.
C'est des partous quoi. Enfin, ouais. Genre, j'étais vendeur quand on m'a dit ça. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, ça veut dire, là j'étais à un endroit où.
Ici,
j'étais mort de rire.
Tu vois les canapés, tu les vois pas de la même façon après.
Et du coup, je me suis dit, ah ouais, sympa les endroits insolites.
Ok, ok. Moi, c'est une bonne anecdote.
C'est pas une anecdote qui me touche directement, mais je trouve ça rigolo. Tu m'as demandé une anecdote rigolote.
Bah, en parlant de ça, ça me fait penser, pendant qu'on est dans le thème, j'avais fait une intervention à Rennes pour faire une conférence. Et en gros, je prends pas mon Airbnb, je le prends au dernier moment au Airbnb. Et ouais. Vraiment, je me disais, bah.
Célèbre conférence d'ailleurs avec Steve Jobs, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. En 2021, oui. Du coup, je prends mon Airbnb vraiment au dernier moment, truc à pas faire. Et il reste plus que. Je vois que. Je vois la carte, il reste genre trois endroits où je peux louer un Airbnb. Et il y en a deux qui sont trop excentrés, pas bien. Et j'en vois un qui est vraiment bien au milieu. Et très cher. Par contre, je me demande pourquoi est-ce qu'il coûte si cher. Je clique sur le lieu et je découvre que dans Airbnb, tu peux avoir c'est pas des chambres un peu. Enfin, si, c'est ça, c'est des chambres. Des sex chambres. En gros, c'est.
Des love rooms.
Ouais, putain, c'est ça.
Tu connais ça? Non, je connais pas, non. En vrai, je suis consommateur du bail. En fait, c'est moi qui les ai créés.
Non, mais
ça me dit un truc.
Et ben en fait, je clique parce que ça coûte quand même genre 400 balles la nuit, un truc comme
Attends, il y a quoi dans
la chambre? Non, mais c'est
monstrueux. Je veux savoir ce qu'il y a dans une.
Et en fait, c'est un petit Airbnb. Enfin, non, c'est un grand Airbnb.
Ouais.
Qui ressemble vraiment à un Airbnb classique. Sauf que t'as un petit fouet sur le mur.
Arrête-toi.
T'as des petites boules qui ne correspondent à je ne sais pas quoi,
En plus, c'est que des trucs qu'on a déjà dû utiliser.
Mais oui, et...
What?
je me rends compte que je raconte cette anecdote. Je l'avais raconté avec des potes, à des potes, mais. Et quand j'ai découvert les avis qu'il y avait sur le truc.
Il y a des avis Google.
Que des 5 étoiles. Et des gens qui disent on a passé un excellent week-end, des trucs comme ça. Et je fais ok, bref, je suis parti dans un univers.
Mais je suis mort.
Et tout ça sur Airbnb, voilà. Donc à Rennes, j'ai
découvert
ça.
Le mec, n'empêche, c'est un business juteux.
Bah oui, non, mais je.
Business juteux à mort.
Et ouais, et les gens laissent des avis, il y a leurs photos, il y a leurs prénoms. Je me dis,
c'est énorme.
C'est marrant.
C'est énorme. Bon,
voilà, donc tu me fais penser à ça.
On a passé une super nuit avec ma femme Pascal.
Non, mais t'as que des avis très positifs, on reviendra. Et ça me fait bizarre parce que Airbnb, les gens, ça change chaque semaine. Enfin, je me dis, les gens sont déjà. Le fouet que tu prends là pour fouetter ton.
Ah ouais, peut-être c'est des fouets jetables.
Donc, ok, intéressant les anecdotes. J'ai quelques questions. Qui sont des questions d'introspection
ça
pour
marche.
Finir ce podcast.
Ça marche.
Est-ce que ça te rappelle un ami à toi qui parle beaucoup d'introspection sur YouTube? Je pensais à Tristan.
Ouais.
Tu sais, il a fait un jeu, je crois, d'introspection pour.
Exact. Le jeu que j'avais acheté.
Ouais. Ça, c'est un nom, je sais plus le.
C'était. Mec.
Désolé Tristan.
Je me rappelle plus de ton jeu. C'était Beyond Carte, un truc comme ça. Non.
Il met Beyond partout, mais pas Beyond Carte. Non, pour le coup, c'était un vrai nom. Attends.
Introspecte-moi. On dirait le nom d'un jeu de société bancale.
On dirait surtout le nom d'une love room arène.
Ouais, introspecte-moi. Oh, excellent.
Désolé Tristan. Là, je cherche le nom. Contrôle.
Exactement.
Le jeu de cartes contrôle.
Non, mais je pense exactement ça.
Ouais, on l'avait, oui. Aussi, non, mais de toute façon, il n'y a pas eu de cut.
Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait également le nom d'une love room arène.
Contrôle. Du coup, en parlant de questions d'introspection, j'en ai quelques-unes pour toi.
Allez, dis-moi tout.
On a parlé.
C'est dommage si je t'appelle Mouloud Achour à chaque fois.
J'ai un nom de Mouloud. C'est quoi? Juste des questions.
Parce que Mouloud Achour, il fait des petites interviews comme ça en mode intro.
Oui, c'est vrai. Donc là, ambiance clic. Léonard, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton passé.
T'as un peu la voix en plus.
C'est vrai. Je vais prendre ma voix un petit peu plus grave. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton passé, parlons un petit peu du présent.
Ah, j'ai cru que t'allais dire du futur.
Non, du présent déjà. Comment est-ce que tu vas en ce moment, mec?
Écoute, ça va bien.
Sur une échelle de 1 à 10
Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que déjà le bonheur, c'est vraiment quantifiable? je sais pas. Allez, on va dire pour la journée.
Ouais.
Aujourd'hui, 7.
Ok. Et d'une...
8 Non, 8.
Ok. Et d'une semaine à une autre, tu passes de combien à combien, par exemple?
En vrai, je suis toujours heureux.
Ok.
Même quand je suis vraiment pas bien, j'essaye d'être heureux. Je suis un éternel optimiste, donc... Je déteste d'ailleurs tous les... Enfin, je déteste. Non, je déteste pas. Enfin, j'aime pas trop, tu sais, tout ce qui est collapsologie, les mecs qui disent oui, machin, on va tous mourir, c'est la fin du monde, nanana.
Tout ce qui te supprime l'envie de vivre, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, enfin, je sais pas, j'essaie de voir toujours le positif dans tout et ça me va très bien.
Et je pense qu'on est plus heureux aussi comme ça.
Ouais, je pense carrément. Que... Bah, carrément. Okay. C'est quand tu commences à te poser des questions sur. Enfin, sur ces choses-là, je
suis vraiment optimiste. C'est un rabbit hole en anglais, genre c'est un trou à lapin, en fait, c'est infini. Une fois que tu commences à creuser dans des sujets comme ça.
Bah ouais, c'est un truc où tu te morfonds.
Et toujours, tu passes tellement de temps à anticiper quelque chose que tu risques de. Enfin, moi je me dis toujours que les efforts que je. Moi, mes efforts, maintenant, beaucoup plus qu'avant, mais la grande partie de mes efforts, c'est sur mes relations. Et c'est ce qui me rend le plus heureux, tu vois, les relations.
Mais comment ça, les relations?
Avec mes amis, des relations amicales, beaucoup de relations amicales, j'ai beaucoup travaillé sur les relations amicales. Okay. Mais toutes les relations avec moi-même, la relation avec moi-même, la relation avec mes grands-parents, que j'appelais de moins en moins et que j'appelle de plus en plus.
T'as beaucoup travaillé là-dessus?
Oui, oui. En fait, tu parlais d'être heureux. Je pense que moi, ce qui me rend heureux, c'est vraiment relation-travail. Avoir un travail qui me plaît, bah comme tu disais, un travail où tu te sens bien, un travail où tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, c'est un énorme pilier pour moi. Et puis il y a les relations à côté, et c'est très important pour moi.
Je suis d'accord. Aussi, bah apporter de la valeur aux gens.
Oui, faire du bien. Et ouais, se dire qu'on partira dans quelques dizaines d'années, qu'on aura fait du bien, quoi. C'est un peu ta vision.
C'est beau. Je vais t'appeler Gandhi. Il y a ce truc aussi de. Pour moi, c'est toujours important d'avoir des objectifs. Des objectifs que tu te fixes parce qu'au moins t'as un truc précis que tu veux atteindre et ça te permet d'avancer. Donc,
ok, et ben, très très bonne transition par rapport à la question suivante parce que là on parlait du présent, comment ça va en ce moment. C'est quoi tes projets aussi pour 2022? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022? Alors, pour que tu sois fier de toi à la fin de l'année?
Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Tu peux me souhaiter de. Pas me foirer. Alors, c'est marrant parce que pile au moment où je dis de pas me foirer, il y a un orage qui fait boum. Non, de pas me foirer parce que là j'arrive à un stade de ma vie où j'avais l'impression de plus trop évoluer depuis. Enfin, il y a quelques mois, j'avais l'impression de plus trop évoluer. Et là, j'ai le sentiment d'avoir un peu débloqué ce truc. Là, il y a quelques mois, j'avais l'impression de plus trop évoluer. Enfin, j'avais un sentiment un peu chaud par rapport à ça. Et j'ai réussi à mettre des mots là-dessus et à trouver d'où ça venait. Et là, je débloque un peu tout ça et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que avant, je prenais énormément de risques. Par exemple, en 2019, quand j'ai commencé vraiment YouTube à fond, tu vois, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. Absolument tout dans YouTube, c'est-à-dire je gagnais pas grand-chose, tu vois, je gagnais 300 balles, je remettais 350. Je mettais toute mon énergie, tout au service de YouTube et de ce que je voulais faire. Et c'était plus vraiment le cas, je prenais plus trop de risques ces temps-ci, j'étais un peu dans mon confort et je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me faisait kiffer, mais t'es obligé à un moment de te sécuriser, etc. Mais pour faire ce que je veux faire, je suis obligé de passer des nouveaux caps. Et pour passer ces nouveaux caps, ça me demande encore plus d'énergie, encore plus d'argent, encore plus de machin. Et ce qui fait que là, sur les mois à venir, je risque de prendre pas mal de risques. Mais moi ça me fait kiffer parce que c'est des nouveaux challenges, c'est des nouvelles étapes à atteindre. Donc tu peux me souhaiter de ne pas me foirer, mais j'ai confiance, je calcule les risques, donc ça va.
Ok, c'est intéressant. Donc t'as fait une période d'introspection toi-même il y a quelques mois pour essayer de mettre des mots, parce que pour moi c'est ça l'introspection, c'est on ressent des choses et on essaie de mettre des mots dessus. Et je trouve que dans la vie, si tu suis ta routine habituelle, t'as pas le temps de mettre des mots dessus. Faut faire un effort volontaire de.
Des fois, c'est important de se poser pour réfléchir à vraiment qui tu es, qu'est-ce que t'as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire. Moi, je sais que je m'étais carrément perdu là, pendant un moment, et ça s'est ressenti, je pense aussi sur les contenus que je faisais, Et intrinsèquement, tu vois, c'est bah moi c'est le décès de mon grand-père qui m'a un peu réveillé sur la vie. Je me suis aperçu que bah en fait quand j'avais jamais perdu une personne, tu vois. Et c'est arrivé subitement et je me suis dit putain en fait il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, tu vois, et je suis en train de devenir le modèle que je veux pas devenir. Donc ça m'a un peu réveillé. Et je suis très content. Ça m'a mis un peu une baffe pleine tête. Et là, du coup, maintenant, j'ai plein de rêves, plein de trucs que je veux encore avoir. Avant, j'avais une flamme. Par un moment, elle était un peu petite, et maintenant, elle a décuplé. Donc,
ok.
Vas-y, let's go, on va.
Donc, période d'introspection, plus ce décès dans ta famille qui t'a rappelé à quel point la vie était courte. C'est ça? Ça t'a remis un peu. Enfin, ça t'a mis. Ça t'a fait connaître une sensation que t'avais jamais connue avant.
C'est ça, je me suis dit que. Si je veux faire des trucs, faut les faire maintenant, faut pas attendre que ça me passe sous les yeux. Aujourd'hui, j'ai plein d'occasions. Faut que j'y aille. Il y a un moment où faut y aller, où faut mettre la main à la pâte et je pense que c'est maintenant. Et du coup,
Ok.
Je fais pas mal de trucs en ce moment pour. Pour essayer de
proposer. Tu veux pas en parler, c'est perso, c'est.
C'est pas que c'est personnel, c'est juste que. En fait, je pourrais t'en parler, mais je préfère que ce soit oui. Pas.
Mais je comprends ce que tu veux dire. T'as mis en place des idées, t'as un plan, un plan à suivre et t'as pas envie de le dévoiler.
Oui, voilà, c'est plus ça.
Tu vas le dévoiler au fur et à mesure sur YouTube avec.
Voilà, c'est juste que publiquement, je préfère pas en parler.
Je serais pareil, donc. Je comprends tout à fait. Et ça me fait penser à la dernière question d'introspection. C'est parce que ça parlait de la mort en plus. Donc, c'est. Parce qu'en fait, ça me parle. Tu vois, même ce que tu me dis, là, ça me parle parce que moi, j'ai encore mes deux grands-parents, côté paternel et maternel.
Donc, les quatre.
Ouais, les quatre. Enfin, les deux couples de grands-parents. Et je sais que même parfois, je les vois. Par exemple, mes grands-parents du côté. De maman, ils habitent avec moi. En fait, on habite dans une maison qui est séparée, mais c'est mes voisins en gros. Et du côté de mon père, ils sont plus éloignés. Et parfois, mes grands-parents du côté de maman, je les vois, mais je sais que même si je fais des efforts, même si j'essaie de les appeler, qu'on mange ensemble, etc., je me dis, là, tu vas regretter de pas les avoir appelés ce soir quand ils seront partis. Tu vois, j'anticipe parfois déjà des moments où je me dis, ils vont partir. Et je fais pas l'effort maximal, tu vois. Et ça me donne un petit sentiment d'urgence pour le lendemain les appeler ou faire quelque chose. Et moi, j'en ai parlé avec Arthur. La mort, c'est pas un sujet pour moi qui est déprimant pour moi. C'est plutôt la raison numéro une pour laquelle j'ai envie de faire des choses aujourd'hui. Et
moi, j'ai pas envie de mourir.
Ah, moi non plus. Tant qu'à faire.
J'avais vieux. Mais j'accepte pour autant j'accepte le décès, tu vois.
Par contre, je préfère une existence avec beaucoup de choses vécues et mourir à 60 ans que une existence où j'ai fait moins de choses mais où je vis très longtemps jusqu'à 90 ans par exemple. Même encore plus extrême, je préférais. Mais après, c'est difficile parce que j'aurai une famille, mais mourir à 60 ou 50 même et avoir une très belle existence avec beaucoup de choses. Mais bon, tant qu'à faire. Personne n'a envie de mourir jeune, personne n'a envie de mourir tout court. Je pense que ça fait quand même peur à beaucoup de personnes, mais c'est quand même un bon rappel.
Ouais, je suis assez d'accord sur ce point de vue-là que t'as envie de vivre un maximum de choses et alors tu préfères une existence qui est courte et intense que longue, mais je pense que tu peux avoir une existence qui est longue et intense également.
C'est ça.
C'est juste que
le but ultime.
Il faut juste savoir se reposer quand on a besoin, savoir bien manger. Enfin, après,
Mais une existence longue peut devenir un calvaire si il y a tellement de regrets qui se sont accumulés, je pense, ou tellement de choses qui font travailler ta mémoire parce que, quand t'es plus âgé, t'as moins les capacités de faire des choses avec ton corps au moins. Tu peux en faire avec ta tête.
Ouais, c'est intéressant ce dont tu parles parce que au final, ça renvoie un peu au transhumanisme où on dit que nous, notre génération, on va vivre. Longtemps parce que on va commencer à avoir des technos qui vont faire que on va pouvoir allonger notre espérance de vie et il y a ce truc de est-ce que c'est pas que c'est contre nature mais est-ce que ça Est-ce que t'as vraiment envie de vivre autant de temps? Est-ce que tu...
C'est ça. Parce que vivre vieux, ça fait envie comme ça. Mais dans quelles conditions et surtout avec quel, dans quel état mental aussi?
Bah c'est, ouais. Donc, imagine, tu pousses le truc super loin, il se passe quoi si tu vis 400 ans?
Mais, oui, mais c'est parce qu'il y a aussi des personnes qui... Bon, j'aurais pu le penser ça plus jeune, mais il y a des personnes qui pensent que la vie éternelle, ce serait trop bien.
Ah, ça serait horrible.
Moi, c'est un
le
enfer.
Pire, hein. C'est tu as la vie éternelle, mais pas les autres. C'est vraiment, c'est...
Mais oui, non, mais c'est pour ça. Et même la vie éternelle, tout le monde a la vie éternelle, et je les aime bien, mes amis. Hein.
Ouais.
Mais au bout de 400 ans, ils vont me saouler.
Ouais.
Il y a un moment, faut qu'on parte aussi.
En vrai, pour profiter de la vie au maximum, t'es obligé d'avoir la mort. Enfin, tu sais, c'est comme ce truc où moi je me dis, ta vie en général, c'est des moments de haut, c'est des moments de bas. Des fois, t'es au fond du gouffre, t'as envie de crever. D'autres fois, t'es en mode yes, tout va bien. Bah, pour que des fois tu sois tout en haut, il faut que tu sois parfois tout en bas. Je préfère avoir une vie où c'est des montagnes russes qu'avoir une vie où c'est toujours super plat. Après, c'est mon point de vue en l'occurrence. Mais
je suis 100% d'accord. Pour apprécier la nourriture, il faut avoir eu faim. Pour apprécier...
Pour apprécier la vie, il faut...
Exactement. Avoir connu le penchant négatif de quelque chose permet d'apprécier le penchant positif. Et la mort, bah, c'est le...
T'acceptes de mourir? Enfin, t'acceptes de mourir. En fait, il y a un bouton. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire, genre, enfin.
Ah oui, par exemple, Arthur Moza,
ouais.
Il me disait que lui, quand il était en période de dépression, il ne voulait pas entendre le mot mort, et même il me disait, quand il entendait le mot mort de rire,
ouais.
ça le faisait bader, parce que ça lui rappelait juste la mort, donc il était un peu dans le déni par rapport à ça, ou en tout cas, il ne voulait pas entendre parler de la mort. Moi, oui, j'ai accepté que tout le monde, toutes les personnes autour de moi vont mourir un jour.
Moi, c'est un jour où je me suis dit, j'étais un peu plus jeune, je me rappelle, j'étais dans mon lit. C'était un soir, je me suis dit, mais en fait, un jour je vais mourir. Et mec, j'ai gros bad, vraiment gros bad ce jour-là. J'étais petit, hein, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, 15 ans.
Ok.
Et j'ai larmes aux yeux, tu vois. Je me dis, je vais, enfin, mes proches ils vont décéder, etc. Et du coup, j'ai toujours appréhendé le moment où j'allais perdre quelqu'un. Parce que ça m'était jamais arrivé, j'ai jamais perdu un proche. Et jusqu'à ce moment-là où, vraiment, ça m'a mis une torgnole. En fait, c'est un truc que j'accepte, tu vois, genre... C'est la nature et tu dois juste vivre et kiffer au maximum, juste en ayant conscience. Ça, je trouve que ça donne encore plus de force, ça donne encore plus d'intérêt. Tu te dis, ok, bah, faut que je vive tout à fond, faut que je fasse tout à fond. Et je pense que c'est bien de savoir ça.
Ok. Donc, oui, je dirais que je l'accepte, mais c'est vrai que j'ai pas eu... de décès dans mon entourage très très proche, donc en soi je suis personne pour dire que je l'ai accepté parce que j'ai jamais été confronté vraiment à ça, mais je l'appréhende un petit peu et normalement ça se fait dans l'ordre naturel des choses. Ça va être d'abord j'ai perdu mes arrière-grands-parents, j'ai des vagues souvenirs d'eux, donc je les ai perdus, mais voilà, c'était pas mon entourage très très proche, je les voyais pas régulièrement. Mais si ça se fait dans l'ordre naturel des choses et que c'est d'abord mes grands-parents puis mes parents, peut-être que je l'accepterai encore mieux, mais enfin c'est dur, hein, d'y penser. Enfin, j'y pense pas non plus sur une base régulière. Mais comme toi, je me rappelle, j'ai eu ce petit truc lorsque j'étais jeune. Ah putain, je vais mourir. Et j'ai eu une discussion.
Putain, je vais mourir.
Bah oui.
Non mais je vois totalement. T'as dit, je vais mourir un jour.
Ouais ouais. Ou pire, quand tu es en famille par exemple et que tu dis là tout le monde va disparaître un jour, ça peut être aussi un truc à avoir un coup de batte. Donc moi je me le dis pas trop. C'est vrai que j'en parle beaucoup dans les podcasts parce que c'est l'occasion d'en parler. Enfin, j'en ai parlé récemment dans les podcasts, mais sur une base régulière.
Tu crois au paradis, toi?
Disons que on rentre un peu dans le domaine de la religion. Donc il y a des croyances différentes. Donc je veux pas que ma vision, tu vois, elle déplaise à des personnes. Mais dans tous les cas, ce que je dirais sur le paradis, sur cette notion de qu'un lieu t'est réservé si tu as fait du bien dans ta vie, je dirais que c'est la meilleure vision possible à avoir, tu vois. Parce que je me dis que déjà dans le présent, ça veut dire en gros pour moi avoir une conscience c'est bien. Je pense que tu vois, c'est mon principe de base, avoir une conscience c'est bien de tes actes, c'est-à-dire une petite boussole interne où tu te dis si je fais ça je vais faire du mal à quelqu'un, donc niveau conscience, ma conscience me dit que c'est pas très bien. Ça pour moi c'est essayer de faire en sorte que les actions que l'on fait au quotidien ne font pas trop de mal autour de soi. Et pour moi le paradis c'est encore plus haut, où c'est en gros, c'est comme si à la fin de ta vie, il va y avoir un bilan comptable de tous tes actes,
ouais,
avec les cases plus et les cases moins. Et si tu as fait du bien autour de toi, tu mérites cette place-là.
Mais tu crois du coup ?
Ben,
tu crois à un truc après la mort ?
Pour moi, c'est une des questions les plus dures possibles en fait. C'est tout ce qui touche au niveau spirituel ou tout ce qui touche à un niveau ou tout ce qui touche à la religion, c'est très difficile pour moi de répondre. Très très difficile d'imaginer.
Du coup, tu paraphrases.
Du coup,
tu paraphrases.
Pour faire une réponse non, tu vois, pour moi, je, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est une chose, c'est bien, tu vois, je vais pas me moquer de quelqu'un qui croit au paradis, parce que pour moi c'est la meilleure, c'est trop bien d'avoir cette petite j'ai des conseils qui peuvent s'apparenter à des conseils que je donne parfois, qui peuvent s'apparenter à des conseils de religion. J'ai dit dans une vidéo conseil pour les personnes de 20 ans d'agir comme si quelqu'un te regardait d'en haut, tu vois, et pendant le tournage j'ai fait ah mais en fait c'est ça le principe de la religion, c'est d'agir comme si quelqu'un te regardait d'en haut. Et donc, même parfois dans mon quotidien, j'applique des principes qui s'apparentent à des principes religieux. C'est juste que je leur donne pas une dimension religieuse, où je me dis qu'il y a pas, j'identifie pas forcément un dieu en particulier qui me regarde. Mais je me dis que pour le développement d'une personne et pour faire du bien autour de soi, c'est forcément bien de se dire d'une part que tu es regardé par quelqu'un. Ça peut être aussi des personnes de ton entourage qui sont décédées, par exemple. Tu vois qu'on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui nous regardent actuellement. Il y a des gens qui espèrent qu'on va faire des choses. Et nous-mêmes, on devrait espérer de nous-mêmes faire qu'on fasse des choses. Mais c'est bien, tu vois. C'est des bons principes à avoir, je pense, au quotidien. Donc, je ne sais pas si on va se retrouver dans un endroit où ce sera très beau, très vert, avec des cascades. Enfin, c'est comme ça que j'imaginerais en tout cas le paradis. Tu vois, un endroit magnifique. Avec de l'eau, de la nature, etc. Parce que c'est comme ça, je crois, qu'on me l'avait présenté quand j'étais plus petit. Donc, je sais pas. Et toi, t'y crois ?
Non.
Ok. Parce que quand tu m'as posé la question, je me disais, si ça se trouve, tu...
Non, c'est pas que j'y crois pas. Mais... Alors, je... Bah, je suis... Je suis catholique. Mais je suis pas pratiquant. Enfin... Je suis issu de famille catholique, mais je crois en quelque chose, mais pas sous la forme qu'on a pu me la présenter jusqu'à présent. Mais ouais, j'ai un truc en moi. Ça va faire un peu ésotériste, mais je crois un peu aux énergies, tu vois. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, j'arrive à savoir si c'est plus une énergie positive, plus une énergie négative. Et il y a des gens avec qui je sais que ça n'a pas du tout matché parce que, je sais pas, je sens un truc sombre, il y en a d'autres, je sens de la lumière. Enfin, je sais pas, je crois à ce truc d'énergie. Et du coup, se dire précisément s'il y a un paradis ou quoi, aucune idée. Mais en tout cas, je pense que ouais, il y a une espèce de foi intérieure. Après, sous quelle forme, je sais pas.
Ça, pour moi, c'est très cohérent. C'est ce que j'avais remarqué quand j'étais en appartement seul, par exemple. Parce que dans mon appartement, quand j'étais étudiant seul dans mon appartement, l'ambiance de l'énergie de la pièce, c'était mon énergie. Et je sentais tout de suite, quand j'invitais des personnes dans l'appartement, qu'il y avait un mélange d'énergie, tu vois. Et c'est bête, mais c'est comme ça que je l'avais perçu. Et quand je rencontrais des personnes et que je voyais même régulièrement des personnes, leur énergie, je sentais qu'il y avait un mélange d'énergie. Alors que quand j'étais vraiment seul, c'était que mon énergie à moi et c'était agréable aussi. Parce que ça m'apprenait à être moi-même, bien avec moi-même et ma propre énergie. Donc ça me parle, c'est pas du tout déconnant, ouais.
Tu vois, le fait de... Enfin, rien que le karma, le fait de... Si t'apportes du...
J'y crois beaucoup, ouais.
Si t'apportes du bien aux gens, alors t'en auras forcément. C'est un peu des... pas des mantras, mais c'est un peu les trucs auxquels je suis attaché.
Mais ça, c'est le genre de truc, petit, on s'en moque, tu sais, on en rigole. Et même d'ailleurs, quand on était petit, je trouvais que... Alors, en plus, j'étais dans un lycée. Alors moi, j'ai fait un lycée... J'ai fait un lycée public et un collège privé.
Ouais, pareil.
Collège privé, j'avais des cours. Alors, je sais pas si c'est un collège catholique, mais j'avais des cours de caté, tu vois.
Pareil.
Et on s'en moquait beaucoup quand on était petit.
Pareil.
et en fait, c'est le genre de truc, en fait, plus tu grandis et moins tu t'en moques, en fait. Et donc, en effet, c'est pour ça que je te dis que ça me parle beaucoup, même si moi je me rappelle que je me moquais, maman, quand j'étais petit, ma mère, elle a beaucoup ce truc elle arrive à sentir les personnes assez vite. Et quand elle me disait ça petit, bon, moi je rigolais, tu vois. Et en fait, plus tu grandis et plus tu te rends compte que ça te parle, en fait. Mais je pense que c'est aussi parce que tu éveilles ta. Alors ça fait pareil, éveiller sa conscience, tu vois, ça fait un petit peu spirituel dit comme ça, mais c'est juste que plus tu grandis, et selon moi, on pourrait dire plus tu es mature, t'as plus conscience de ce que tu fais, donc...
Ouais, tu développes ton chemin de vie, en fait.
Ouais. Donc, écoute, la question de base de l'introspection, c'était, s'il te restait 3 ans à vivre, et que que t'en prenais conscience aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien ?
Tu l'as posté sur Instagram.
Oui.
J'étais sûr que t'allais me poser cette question.
Et je trouve que c'est une bonne question à se poser pour n'importe quelle personne, en fait.
S'il me restait 3 ans à vivre...
Est-ce qu'il y a un truc qui changerait dans ton quotidien ?
Ouais.
Quoi ?
C'est-à-dire que j'estime être un gars qui prend quand même du coup des risques. Je les mesure quand même. C'est-à-dire que je les mesure en mode... Je réfléchis au pire scénario qui pourrait se passer et je me dis... Ok, on va pas dépasser ce stade-là, tu vois. Pour que si rien ne se passe comme prévu, ce soit la merde, mais pas trop quand même. S'il me restait 3 ans à vivre, j'en aurais rien à faire de mesurer les risques. C'est-à-dire que je ne mesurerais plus aucun risque. Je ferais tout en grand.
Okay.
Rien à faire. Et des fois, je me dis peut-être que je devrais faire ça, tu vois. Sans qu'il me reste 3 ans à vivre. Juste comme ça.
Bah, se mettre dans un état de survie un peu.
Voilà, c'est ça. Et puis si tout foire, tant pis. Mais quand même, je pense que la pyramide de Maslow est quand même importante. Donc, j'essaye de pas tout effondrer.
Ouais. Non, en fait, la pyramide de Maslow, on en a. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo auront à peu près les premiers stades, besoins physiologiques, psychologiques, en fonction des peurs de ta vie où tu es. Ça peut être plus compliqué, c'est la santé mentale aussi, mais. Souvent, ce qui nous manque, c'est juste le besoin d'épanouissement et de faire un travail qui a du sens pour nous, quoi. Mais cette question, elle est importante, je trouve, parce que elle m'a aidé, moi, cette question, tu vois. Je me suis dit plein de fois, s'il me restait 3 ans à vivre, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, 3 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave. Le but, c'est de se mettre dans une situation d'urgence un petit peu, parce que quand tu es en situation d'urgence, tu te poses beaucoup moins de questions, tu sors un petit peu de tous tes scénarios que tu as en tête et qui se bousculent et qui se mélangent et qui t'empêchent de faire des choses. Et donc, c'est juste une question, moi, qui m'a aidé à... juste rappelle-toi déjà que tu vas mourir et essaie de rajouter toi-même un sentiment d'urgence pour faire des choses maintenant, tu vois, parce que sinon, c'est trop facile de se perdre dans ces scénarios qu'on va créer, tu vois.
Ouais, mais carrément. Ça me fait penser à un truc, je pourrais en faire un peu une métaphore, ce serait, je suis sur une moto et aujourd'hui je roule assez vite, tu vois, mais je suis à 130 parce que je dépasse pas la limite autorisée et parce que je sais que si y a un camion qui pile devant, hein, ou une voiture qui pile devant, j'aurai le temps pour freiner et ça va, je vais limiter les dégâts. S'il me restait que 3 ans à vivre, donc ça veut dire que je sais que dans tous les cas faut que j'arrive le plus vite au but. Je roulerai à 220, tu vois, au maximum qu'est possible d'aller avec la moto. Ce serait un peu ça.
Ok. C'est une bonne réponse. Tu changerais pas forcément grand chose parce que tu prends déjà pas mal de risques au quotidien.
J'en prendrais juste plus.
Ok. Écoute, très bien. L'important, de toute façon, c'est juste de se poser la question et de voir ce que
serait bien. Tu es à 16 sur 20.
Voilà.
C'était noté.
Mais de toute façon, comme tu as déjà fait une période d'introspection, tu m'as dit il y a quelques mois, en fait, tu as déjà pas mal de réponses que tu as trouvées.
Ouais, je t'avoue que je me suis quand même beaucoup posé en me disant qui je suis, qu'est-ce que je veux,
Ok.
Ça a fait du bien.
Ok, écoute, je suis très content que tu aies pu montrer un peu cette facette de toi, parce qu'en vidéo, quand on fait des concepts où on essaie de divertir, on les montre pas forcément et on se rend pas compte de toutes les réflexions qu'il y a derrière aussi entre les vidéos, tu vois. Et je suis très content que tu en aies parlé. Merci pour cette interview.
Merci Greg. Ça fait plaisir.
Et merci pour ça, pour avoir parlé de tout ça. Et j'espère que ça va bien se passer pour la suite et je te souhaite une très très bonne année 2022.
Et ravi d'être passé sur la chaîne et sur ce podcast. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite aussi beaucoup de trucs pour 2022. C'est quoi, toi, tes objectifs, là, pour...
Pareil, grosse remise en question il y a quelques mois après avoir eu les 100 000 abonnés. Et maintenant, grosse prise de risque dans les prochains mois. Pareil. Et c'est pour ça que je te dis que je vais pas en parler comme toi, je vais pas t'obliger à te dévoiler.
On va en parler, mais juste après, en fait.
Ça, c'est frustrant, ça. Je sais que c'est frustrant à entendre. Mais donc, ouais, grosse remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de représenter? Et qu'est-ce que je peux faire pour passer à la vitesse supérieure dans les prochains mois?
Tu m'as dit que toi, tu voulais te lancer dans le rap à fond, ça.
Ouais.
Détrôner Nino.
Mais je biperai là, du coup, pour pas qu'ils entendent.
Ok.
Mais ouais, j'ai un petit feat prévu. Avec Petit Biscuit.
Putain, pas mal.
Vraiment au hasard.
Petit Biscuit qui n'est pas rappeur, du coup.
Non, et qui est très costaud pour
ouais,
un Petit
j'ai,
Biscuit.
J'ai vu ça. J'étais impressionné. J'ai vu ça sur les stories d'Eric Fly.
Ouais, ouais.
Je me suis dit, mais c'est Petit Biscuit ou mais grand 4 quarts.
Eric, il m'avait donné l'exclu dans un podcast.
Ouais.
Mais il m'avait dit, je veux pas en parler.
De quoi?
Du fait qu'il allait faire un podcast avec Petit Biscuit.
Ok.
Et moi, j'étais comme ça. T'as pas un truc à nous dire, Eric, un prochain mois, un petit guest sympa que tu vas faire venir sur le podcast? Et il était là, non, je dis rien, tu vois. Et j'étais là, t'es sûr, tu vois, je le taquinais dans le podcast pour qu'il en parle. Mais il voulait vraiment garder ça secret.
Mais il était en poker face, ouais. Ou pas?
Avant de lancer le podcast avec lui, il voulait pas en parler, tu vois. Parce que c'était incroyable d'avoir Petit Biscuit sur son podcast.
Ouais, mais il l'a sorti déjà, le podcast?
Non, ça sortira dans les prochaines semaines.
Ok.
Mais donc... Bah pour nous, ça se finit aujourd'hui, du coup merci beaucoup pour cette interview et puis on se retrouve bientôt sur ta chaîne YouTube Léonard ou sur le podcast prochain épisode de jeudi prochain à 17h
ou dans Danse avec les Stars car je fais la prochaine saison, c'est faux. I got blessings falling on me. I got weapons, Nino on me. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me.